Une vie de boy. Premier véritable roman nègre. Batoila de René Maran ouvre la voie à la création romanesque négro-africaine d'expression française. C'est dans ce sillage que va s'inscrire toute l'œuvre d'Oyono. Il vient apporter sa partition dans l'entreprise de dénonciation du colonialisme. Ainsi, Ferdinand Oyono dresse une fresque acerbe des mœurs coloniales. Grand un l'auteur né le 14 septembre 1929 à Ngoulé-Makong, dans le sud-est du Cameroun, Ferdinand Oyono s'enracine dans le pays bantou en pleine zone forestière, cadre de ses romans. Il grandit en milieu catholique marqué par le syncrétisme religieux. Sa mère, catholique convaincue et pratiquante, refusant de cohabiter avec un mari baptisé et polygame, quitta le domicile conjugal pour s'installer à Ebolowa avec ses enfants. Elle y exerce les métiers de couturière et de vendeuse. Quant au père, son statut de fonctionnaire et de polygame lui oblige à de fréquents déplacements. Ces déplacements, même s'ils l'arrachent à l'affection maternelle, sont d'un grand profit pour le futur romancier. À la suite de sa sœur aînée, Oyono entre à la mission catholique, où il assure les fonctions d'enfant de chœur et de boy, avant de recevoir une initiation aux lettres classiques et d'obtenir le sepaï. Flatté par le succès de son fils, son père le fait entrer au lycée d'Ebolowa avant de l'envoyer en France pour suivre ses études secondaires sanctionnées par le bac en 1950. À Paris, Oyono partage son temps entre ses cours à la faculté de droit et l'École nationale d'administration, tout en rédigeant ses souvenirs d'enfance, qui servent d'ébauche à ses futurs romans « Une vie de boy » 1956, « Le vieux nègre » et « La médaille » 1956. Après l'accession de son pays à l'indépendance, il occupe plusieurs postes administratifs et diplomatiques et publie son troisième roman « Chemin d'Europe ». Grand deux études d'une vie de boy à résume à la suite d'une querelle vive avec son père. Tundi Ondoa se réfugie chez le père Gilberte qui lui donne une éducation correcte. Il meurt accidentellement quelque temps après. À l'instar de son maître, Tundi a l'habitude de tenir un journal. Sa bonne réputation lui vaut d'entrer au service du commandant Dekazi, le chef des Blancs de Dangan. L'accueil brutal qui lui est réservé est loin d'égaler celui de son père adoptif. Dans la première partie du roman, il s'emploie à servir son patron avec diligence et ponctualité. Il connaît un bref moment de bonheur avec l'arrivée de Suzy, l'épouse du commandant que sa grande beauté séduit. Dans son journal, on peut trouver tout ce qui se passe dans ce milieu des colons. Rien ne lui échappe. La supériorité et l'amitié du blanc auxquels il croyait ne tarderont pas de s'effriter. Il découvre dès lors deux mondes radicalement différents. La résidence blanche affiche un luxe insolent devant le misérable quartier indigène. Tundi traverse un certain nombre d'épreuves qui aboutissent à sa perte, non qu'il ait été averti sur la vraie nature des blancs. Lorsqu'il découvre que le commandant est incirconcis, un large pan du mythe qui entourait les blancs tomba. Enfin, l'adultère de Madame Dekazi constitue la dernière étape du processus de démythification dans l'esprit de Tundi. Ainsi, il devient gênant aux yeux des Blancs. Les manœuvres de l'ingénieur avec la complicité du commandant et de M. Moreau ne tarderont pas de charger Tundi. Après de graves sévices qui nécessiteront une hospitalisation, il réussit à s'évader et se rend en Guinée voisine où il trouvera la mort. B. Structure de l'œuvre et technique d'écriture. Lecteur de Balzac et de Zola, F. Oyono se range dans la catégorie des romanciers dits réalistes. Ses romans constituent des témoignages sur l'Afrique coloniale. S'il dépeint le caractère inique et violent des Blancs, il ne rate pas ses compatriotes qui se laissent humilier par les Européens et acceptent avec résignation leur infériorité comme une fatalité. 1. Structure à composition. L'œuvre est composée d'un avant-propos et de deux cahiers. Dans l'avant-propos, Oyono scelle un contrat avec le lecteur, celui du manuscrit retrouvé. L'auteur serait donc qu'un traducteur d'un texte écrit en Ewondo. Le roman sera la narration à la première personne d'une histoire vécue par un individu. Dans les deux cahiers, le récit suit une progression linéaire, rigoureusement chronologique. En effet, l'auteur dit avoir assisté à l'agonie d'un de ses compatriotes et, dans son baluchon, il a découvert deux cahiers racornis, le journal de Tundi. Cela nous conduit à nous interroger sur les techniques du récit, mais avant tout, voyons le traitement réservé à l'espace et au temps. B. L'espace et le temps. Tout le récit se déroule dans l'espace de la colonie. Le cadre correspond à une zone de forêt, plus particulièrement l'Afrique centrale, le Cameroun. Fia et Dangane et les villages environnants, où se déroulent les tournées du chef, constituent le cadre de toute l'action. L'essentiel de l'histoire se passe à Dangane, divisé en quartiers résidentiels et en quartiers indigènes. 37 Oyono ne s'étale pas à faire une description de l'habitat ni chez les Blancs et encore moins chez les indigènes. Si chez les premiers on retient la mission catholique, la résidence du commandant, la prison et l'hôpital, par contre chez les autres c'est le blackout total. Ces lieux sont des signes de la présence coloniale et des symboles de répression. Cette présence indique que nous sommes à l'époque coloniale. 43. Par ailleurs, le temps de l'histoire est moins perceptible. C'est un récit qui dure le temps de l'émancipation du héros à sa fin tragique. Dès le début du récit, le mois d'août mentionné en haut du journal montre que la narration commence en ce mois. 41. Aujourd'hui, c'est samedi. Ce traitement particulier accordé au temps de la narration signifierait que l'histoire de Tundi est le lot quotidien de tous les Noirs de la colonie. Aucune échappatoire n'est possible. 2. Les techniques narratives. Le journal, le fonctionnement de la narration et la distribution des séquences sont rendus acceptables par la convention de l'avant-propos. Le terme de journal fait adhérer le lecteur à cette typologie inégalement répartie et hachée par moments à l'image d'un cahier, là où quelqu'un note régulièrement ses réflexions, ce qui est vu, ce qui a été fait. Donc, il est question d'autobiographie fictionnelle, une narration à la première personne. Mais Oyono, par l'astuce du manuscrit traduit, se situe hors du récit. La distanciation, elle consiste à prendre du recul par rapport à l'histoire racontée et vis-à-vis des personnages. Elle permet aussi au romancier de rendre une impression de réalité saisissante en se détachant d'elle. Cela témoigne de la volonté du romancier de rester en dehors de son récit. Cette non-intervention de l'auteur se traduit donc par la distanciation. Oyono cède ainsi l'instance de narration à Tundi. Le point de vue interne Tundi joue le rôle d'observateur-voyeur, auquel sa condition de domestique permet de jeter un regard particulier sur cette société. L'unicité du point de vue impose au lecteur une vision unilatérale de la réalité. Tout est su et découvert à partir des yeux de Joseph Ondoa Tundi, qui ne manque pas d'humour. L'humour. Plaisanterie consistant à souligner avec esprit les aspects drôles d'une réalité, l'utilisation de l'humour permet au moins d'accepter cette dure réalité. En même temps, il reflète le langage du milieu de Tundi. Grand 3, l'étude des personnages, dans la veine de dénonciation du colonialisme, le roman africain présente souvent l'univers de la colonie, où cohabitent deux humanités différentes. Blancs et noirs s'opposent aussi bien par la couleur de leur peau que par leur statut social. Les stéréotypes hérités de l'histoire se dressent encore de manière tenace dans toute cette création. Une vie de boy n'échappe pas à ce schéma manichéen. Mais Oyono a su déconstruire ses clichés et ses mythes. Un Tundi, c'est un naïf qui croit à la supériorité et à l'amitié des Blancs, comme Mecca dans Le Vieux Nègre et La Médaille. Le père Gilbert a contribué à asseoir cet état d'esprit, mais les épreuves traversées vont modifier sa perception des choses. Les brimades exercées sur lui sans raison lui feront déchanter. Ajoutez à cela l'incirconcision du commandant et l'adultère de Madame Dekazi. Tundi, comme la population de Dangan, finit de démythifier les Blancs. Contrairement à ses pères, il sait lire et écrire. Son éducation lui offre l'opportunité de mener une nouvelle vie. Après ses découvertes indiscrètes, il deviendra gênant et il doit être supprimé. Oyono dénonce à travers ce personnage la naïveté des Africains et leur facilité à être séduits par l'occidental. Deux, les comparses dans l'entourage de Tundi, le personnage le plus représentatif les est certainement Calicia. Cette ex-prostituée a rapidement démythifié les Blancs. Elle donne à Tundi un excellent conseil qu'il aura tort de ne pas suivre.